tous, bonjour.
Je suis Aïma Ghezidi, post-doctorant à l'équipe Mitolab, sous la direction de Guy Liners, qui est directeur de l'équipe et de l'unité MitoVasc. Je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille avec une multitude de personnes, notamment Isabelle Meunier, ophtalmologue du CHU de Montpellier, Christine Eichmann, qui est orthoptiste du Danemark, et Dr Xavier Zalonki, du CHU de Rennes. Ma présentation aujourd'hui va être un aperçu sur un projet qu'on a commencé il y a environ un an. Et avant de commencer, j'aimerais quand même remercier Retina France de nous accorder le financement nécessaire pour réaliser ces travaux. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. C'est quoi les AOT ? C'est une maladie sécitante, lentement évolutive et causée par la dégénérescence sélective des cellules ganglionnaires de la rétine constituant le nerf optique. Il est caractérisé par un mode de transmission autosomique dominant et comme vous savez, on a deux copies de chaque gène au niveau de nos cellules et il suffit qu'un seul des deux copies ait une mutation pour que la maladie se déclenche. Et sur un arbre généalogique, ça se traduit par l'apparition des malades à chaque génération. Deuxièmement, il faut faire la différence entre les atrophies optiques non syndromiques dont l'atteinte reste confinée à l'œil et les atrophies optiques dominantes syndromiques dont il présente des symptômes extraoculaires, notamment dans l'oreille, dans le cœur, dans le système nerveux, etc. Notre projet sera plutôt focalisé sur les atrophies optiques dominantes non syndromiques, ou je vais les appeler les AOD isolés. Les AOD isolés sont connus par un triade de symptômes. Premièrement, on a une pâleur papillaire qui est visible sur le fond d'œil, une atteinte de la vision centrale qui est visible sur le champ visuel par un scotum central ou séquocentral et une diminution de la couche des fibres nerveuses. Également, les patients avec l'AOT se retrouvent avec une dyschromatopsie généralisée, mais la plupart des fois, on trouve des anomalies dans l'axe bleu-jaune. Concernant l'âge d'apparition de la maladie, généralement, elle commence avant l'âge de 10 ans. Concernant la sévérité, on trouve une très grande hétérogénéité. On peut retrouver des jeunes avec un dixième d'acuité visuelle et des personnes âgées qui gardent toujours 10 dixièmes d'acuité visuelle. Si on veut regarder la progression de la maladie pour la même mutation, on peut retrouver différents scénarios. Une évolution rapide, moyenne ou encore stable. Et donc, on a aussi une grande variabilité dans le taux de progression de la maladie. Concernant la génétique des AOD isolés, il y a 10 gènes associés dans 8 gènes identifiés et le gène OPA1 reste de loin le gène le plus incriminé et dans les cohortes, il peut atteindre 70% des cas positifs. Le gène OPA1 est situé sur le chromosome 3 et avec plus de 500 mutations qui étaient répertoriées. Et si on veut placer ces mutations en catégories, on a les mutations faux sens qui sont, dans la plupart des cas, sont plus sévères et qui se traduisent par un effet dominant négatif et les autres mutations qui se traduisent par ce qu'on appelle une haploinsuffisance. Ces deux termes sont bien d'être expliqués par Yannick. Maintenant, on va commencer à ressortir nos trois problématiques. Si on essaie de corréler les mutations ou les types des mutations avec une classe de sévérité, on ne trouve pas d'association. Et si on essaie d'associer la localisation de la mutation dans une région ou l'autre du gène, on ne trouve également pas d'association. De plus, les AOD sont connus pour avoir ce qu'on appelle une pénétrance incomplète, une expressivité variable. C'est-à-dire dans une fratrie qui ont la même mutation, on peut retrouver une personne qui a une maladie qui a l'AOD avec une certaine sévérité, et on parle d'une pénétrance complète, une autre personne qui a la mutation mais qui ne présente pas du tout la maladie et on parle d'une pénétrance incomplète, troisième personne qui va avoir la maladie mais avec un autre degré de sévérité et on l'appelle une expressivité variable. Alors, la première problématique, c'est ça. Lorsque un patient arrive et on effectue le diagnostic moléculaire et on connaît la mutation, on a du mal à prédire l'évolution de cette maladie. Est-ce que le patient va être asymptomatique, va développer une acuité visuelle sévère, ou évolution, va présenter une évolution sévère ou encore moyenne. La deuxième problématique qui serait très intéressante pour les études cliniques, c'est si on imagine l'évolution de l'acuité visuelle, on peut imaginer trois scénarios. Soit une évolution lente, soit moyenne, soit sévère. Et si on veut montrer l'efficacité d'une solution thérapeutique, ça serait plus judicieux de la tester chez les patients sévères. Parce que si on la teste chez des patients qui présentent une évolution lente, on aura besoin beaucoup plus d'une décennie pour montrer une petite récupération d'acuité visuelle. Alors, notre objectif, c'est tout simplement essayer de répondre à quelques questions. Premièrement, pourquoi une même mutation donne des sévérités différentes? Et on va avoir une idée sur l'expressivité et la pénétrance de la maladie. Comment peut-on prédire l'évolution de l'acuité visuelle chez un patient avec une mutation OPA1? Et quels sont les facteurs ou caractéristiques qui permettent de différencier les différentes classes de sévérité à travers l'identification des biomarqueurs? Pour répondre à notre objectif et nos questions, et avec la collaboration des différentes personnes que j'ai citées tout à l'heure, on a une cohorte d'environ 80 patients et 39 contrôles. Les 80 patients ont tous des mutations dans le gène OPA1. Ces différents patients ont bénéficié d'un examen ophtalmologique complet et ils ont répondu à un questionnaire pour savoir leurs habitudes alimentaires, notamment la nutrition, et sur quelques facteurs d'exposition comme le tabac et les produits phytosanitaires. Ces différents patients, ensuite, ils étaient classés selon différentes classes de sévérité en fonction de leur acuité visuelle. Et on a 18 patients sévères, 20 patients modérés, 36 bénins et 6 normaux. Sur ces différents patients, on a pris du plasma, du sang et des selles. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces échantillons, je vais vous faire un petit rappel. D'une manière très simple, dans une cellule, on a un ADN qui contient environ 20 000 gènes. Ces 20 000 gènes vont nous donner des protéines en passant par un intermédiaire qui s'appelle les ARN. Ces protéines, et on a quelques-uns qui vont avoir un rôle plutôt structural, former les membranes cellulaires, participer dans des fonctions physiologiques comme la dynamique mitochondriale dans le cas d'OPA1, et certains d'entre elles, ils vont devenir des enzymes et participer au métabolisme. Sachant que les protéines et les ARN peuvent influencer la transcription des gènes dans l'ADN, leur dire qui et à quelle vitesse va être exprimé, et que tout ça est influencé par notre environnement. Maintenant, je vais définir un terme qui est très important dans notre étude et constitue l'approche principale de comment on va analyser nos échantillons, qui s'appelle omics. Omics, tout simplement, ça veut dire l'analyse exhaustive et à haut débit d'une ou plusieurs composantes. Si on veut analyser tous les gènes, on parle de la génomique. Pour les ARN, on parle de la transcriptomique. Pour les protéines, on parle de la protéomique. Et pour les métabolites, on parle de la métabolomique. Et je pense que vous avez déjà une idée avec les travaux de M. Pascal et Mme Cinciabuca qui est derrière sur la métabolomique et sur leurs résultats intéressants qu'on peut avoir. J'aimerais aussi vous parler d'une autre composante qui est très essentielle dans notre corps. C'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Ils sont 10 fois plus des cellules de notre organisme, avec plus de 5000 espèces, et qui représentent à peu près ou qui pèsent 2 kg. Ils participent à différentes fonctions physiologiques, la digestion des aliments, synthèse de neurotransmetteurs, synthèse des enzymes, développement normal et maturation du système immunitaire. Il est même parfois qualifié l'organe oublié. Donc, notre approche... Différentes études ont montré pour le microbiote un lien fort entre la composition et la survenue de quelques maladies, notamment la maladie de Parkinson, des maladies cardiovasculaires, obésité, etc. Donc, notre approche, c'est appliquer toutes ces méthodes omiques, et on parle de multi-omiques, pour avoir une meilleure caractérisation des AOT causées par des mutations OPA1. Maintenant, revenons à nos échantillons que nous avons prélevés. Avec du plasma, on pourrait étudier la métabolomique. Avec du sang, on va extraire de l'ARN et faire de la transcriptomique. Et avec les selles, on va étudier le microbiote. Sachant que Pour la métabolomique, on l'a déjà étudié par une approche ciblée. Le microbe aussi, on l'a déjà analysé. Et pour la transcriptomique, on a passé environ 50% des échantillons. Maintenant, ce qui nous reste, c'est analyser toutes ces données, d'abord par bioinformatique, deuxièmement, réaliser des tests statistiques pour voir les différences entre les différentes catégories, réaliser des associations entre ce que nous avons trouvé comme résultat et les catégories des maladies qu'on a trouvées, et intégrer toutes les composantes omiques ensemble par des approches d'intelligence artificielle pour ressortir ce qu'on appelle une signature omique. Cette signature omique va nous permettre de mieux comprendre et même peut-être découvrir des nouveaux mécanismes physiopathologiques, identifier des biomarqueurs qui vont servir au diagnostic, aux stratifications des cohortes et au suivi de l'évolution de l'acuité visuelle, et qui nous permettra aussi de sélectionner les patients qui seront éligibles pour la thérapie génique. Avant de finir, j'aimerais remercier tous les patients qui y ont participé dans cette étude, nos collaborateurs et tous les organismes qui financent notre équipe et nos projets de recherche, et bien sûr mon équipe avec laquelle je travaille, et je vous remercie aussi pour votre attention.
Merci à vous.